culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour, chers auditeurs, sois le bienvenu au Culte Espoir. C'est pour nous une grande joie et un privilège de partager ce moment avec toi. Je suis Mildred et je suis accompagnée de Brian et Juliana. Salut!
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 Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien.
Ça va très bien.
Contente
merci.
D'être là.
Notre invité du jour est le pasteur Guy Roulet. Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors, il a été présent sur le plateau la semaine passée et il est revenu pour partager un autre sujet tout aussi intéressant. Comment vas-tu, Guy?
Eh bien, je vais très très bien. La météo va bien. Et puis, la santé va bien aussi.
Alors, tout ça aide, n'est-ce pas?
Voilà.
Quel est le thème d'aujourd'hui, Guy?
Ah ben, c'est une grande question que je voudrais partager avec vous. Puisque lorsqu'on lit les récits des premiers chrétiens, et notamment les écrits de l'apôtre Paul, on se rend compte que le message de Jésus, qui était qualifié de sauveur de l'humanité, ce message avait du mal à passer pour les juifs et pour les païens. Pour les juifs, c'était un scandale de dire que Jésus était le sauveur de l'humanité, et pour les païens, c'était une imbécilité. Alors donc la question est de savoir pourquoi Jésus est le sauveur et en quoi est-il le sauveur.
Ok, alors nous sommes très impatients de t'entendre tout à l'heure et je te remercie dès maintenant pour le partage biblique. Et c'est parti les amis pour une heure ensemble. J'ai prié pour que Dieu puisse être à nos côtés et qu'il soit aussi avec toi qui nous écoute. Juliana, est-ce que tu aimes écrire?
Ben bien sûr.
Que vas-tu nous partager aujourd'hui?
Alors, j'aimerais vous partager une pratique d'écriture que je trouve très simple et en même temps vraiment édifiante. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Proverbs 31 Ministries, qui propose des études bibliques en ligne avec toute une communauté de femmes sur la base d'un livre écrit par une auteure chrétienne ou un auteur chrétien. Si vous lisez bien l'anglais, je vous conseille d'y jeter un œil parce que c'est très enrichissant.
Ouais, ça en a l'air.
En plus, il suffit d'acheter le livre, de s'inscrire et voilà, rien de plus simple. Dans une de ces études, on propose une étude un peu particulière avec le livre « Write the Word », donc « Écrire à la parole ». Ça permet simplement de recopier chaque jour le verset sélectionné et puis d'écrire une chose pour laquelle on est reconnaissant et ce qu'on a sur le cœur aujourd'hui. Donc c'est aussi simple que ça, mais je trouve le concept génial. C'est quelque chose qu'on peut faire en 5-10 minutes le matin ou juste avant de se coucher. Et ça permet de recentrer ses pensées sur la parole de Dieu et non plus sur nos problèmes et nos préoccupations du moment. Une des leaders de cette étude disait que par moment, on n'arrive juste pas à lire, étudier la Bible parce qu'on passe par des moments vraiment difficiles ou parce qu'on a beaucoup de mal à trouver du temps. Et elle disait que pendant une grande épreuve de vie, elle n'avait juste plus la force d'étudier la Bible. Et donc, elle est tombée sur ce livre et elle s'est dit « Bah, c'est exactement ce qu'il me faut. » Écrire la parole l'a apaisée. Et mine de rien, en fait, ça permet de mémoriser les versets. Donc voilà, si tu n'as jamais tenté l'expérience, je t'invite à le faire, peut-être tous les jours, ou peut-être simplement une fois par semaine. Mais je t'assure, tu verras à quel point le seul fait d'écrire la parole de Dieu a une force incroyable et peut changer nos pensées, nos actions, nos comportements. Bref, nos vies.
Alors merci Juliana pour ces paroles d'encouragement et cette belle proposition d'expérience. J'aimerais à mon tour continuer dans cette dynamique avec une promesse qui est tout en lien avec ce que tu viens de dire. La promesse dit « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » C'est une promesse qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43 et à partir du verset 2. L'eau et le feu sont deux éléments qui peuvent être destructeurs, disons-le clairement. Incendie, tsunami, inondation, etc. Mais ces deux éléments sont aussi bénéfiques, même indispensables pour l'homme et à la vie en général. Le feu nous éclaire dans la nuit, le feu nous réchauffe les longues soirées d'hiver, elle permet de cuire nos aliments, alors que l'eau, elle nous permet de nous abreuver, besoin physiologique numéro 1 de l'humain, elle nous permet de nous laver, elle est une source d'eau pour la vie, une source de vie, pardon, pour la nature. Et je crois que ce n'est pas par hasard que ces deux éléments familiers à l'homme soient cités dans ce verset. Des éléments qui nous côtoient régulièrement et peuvent nous faire prendre conscience de la symbolique de certaines saisons de notre vie. Alors, cette promesse, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle ne te dit pas que tous les soucis vont s'envoler ou que tout va aller comme sur des roulettes. Elle dit que pendant que tu traverses l'eau et les fleuves, ce qui laisse supposer que nous aurons des moments où il faudra peut-être nager, faire peut-être un peu d'apnée, peut-être fournir des efforts pour rester à flot, Dieu, lui, te promet que les flots de ce fleuve ne te submergeront pas. L'incendie qui embrase certains moments de ta vie, elle ne te consumera pas. Et comme disait Juliana, si tu n'as pas la force ou le courage d'aller voir dans sa parole pour chercher des ressources, sache que lui, il sera présent, il ne te lâche pas la main. Et ça, il le dit au début du verset, « Je serai avec toi ». J'aimerais t'encourager, si tu es peut-être dans cette situation, une situation de deuil, de perte d'emploi, si tu es déprimé par des nouvelles véhiculées chaque jour par les infos, ou que tu es victime, je sais pas moi, de racisme, de violence, de harcèlement. Peut-être que tu as besoin d'encourager quelqu'un, un proche, une collègue, qui se trouve dans une situation délicate. Ben voici une pépite d'espoir que j'aimerais t'inviter à écouter. C'est une chanson de Sweet Witness qui va te donner la pêche. Thank you. Merci Seigneur, plus de peur, plus de cris, une autre promesse merveilleuse de Dieu. Une autre chanson qui témoigne, elle, du temps de Dieu. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. On veut tout, tout de suite. Grâce aux grandes distributions, nous avons l'objet de nos désirs qui vient de l'autre bout du monde en quelques jours seulement. Micro-ondes, trottinettes, électroménager. Tu demandes et tu reçois. Parfois, j'aimerais que Dieu fasse la même chose pour moi, j'avoue. Tout devrait se réaliser en quelques secondes. Mais je le vois bien, c'est pas toujours le cas. Et quand cela ne vient pas, voilà, la cascade de questions commence. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il ne veut pas me répondre? Alors, ne te fais pas de soucis, Dieu, il agit. Il agira, et peut-être pas à ta façon, mais il agira, en son temps. Une chanson de Maggie Blanchard.
Rappelle-toi combien de fois
cher auditeur, tu es connecté au culte espoir. Et à ce moment précis, nous allons connaître l'histoire d'Anne-Laure. Elle a vécu des moments très inquiétants, mais elle a décidé de s'allier à Dieu et de lui faire totale confiance. Découvrons ensemble son témoignage.
Bonjour, je m'appelle Anne-Laure et je vais vous partager mon témoignage. À 13 ans, lors d'un contrôle de routine ophtalmologique, on se rend compte que j'ai un souci au niveau des yeux. L'ophtalmologue nous oriente vers les spécialistes à la Fondation Rothschild. Pour ceux qui connaissent, elle est spécialisée pour tout ce qui concerne les yeux. Et on me fait une batterie d'examens, d'analyses donc sur moi et sur mes parents. Et j'ai été prise en charge par un docteur formidable, qui est d'ailleurs mon docteur jusqu'à maintenant. On m'a dit que j'avais une maladie très rare. Je ne comprenais de toutes les façons pas vraiment ce qui se passait. Mais j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu que je devenais un petit peu un phénomène de foire et que ça chuchotait dans tous les sens « tu l'as vu, viens la voir » et tout. Et que je devais garder les yeux ouverts face à une lumière aveuglante pendant un temps qui me paraissait être une éternité. Et tout le monde voulait voir mon fond d'œil. Et après de multiples tests, angiographie, examens, on m'a diagnostiqué la maladie de Best. Alors la première fois qu'on me l'a dit, j'ai dit « quoi ? Best ?» comme meilleur en anglais, c'est un peu ironique quand même. Mais bon, on a quand même cherché à me rassurer en me disant que ça pouvait très bien rester comme ça et ne pas évoluer. Je ne me suis donc pas plus inquiétée que ça. Jusqu'à ce que je me réveille un beau matin, à 16 ans, avec comme une sorte de petite tache dans l'œil gauche qui me gênait. Alors ça me l'avait déjà fait plusieurs fois, mais quand je me frottais les yeux, ça partait. Sauf que ce jour-là, c'est pas parti. Et ça m'a gênée toute la journée au lycée, mais j'ai rien dit. Pensant que ça partirait, la tâche partirait d'elle-même. Et au bout de quelques jours, j'ai quand même dit à ma mère que cette tâche dans l'œil ne partait pas et que ça devenait quand même gênant. Du coup, elle m'a emmenée à la fondation. J'ai tout de suite été prise en charge. Et en fait, on m'a dit, branle-bas de combat, la maladie a évolué. Donc on a recommencé les analyses, cette impression d'être un phénomène de foire. Parce que cette maladie, habituellement, touche des gens plus âgés. Pour la petite anecdote, à chaque fois que j'allais à la fondation avec ma mère, on pensait que c'était elle la patiente et que c'était moi qui l'accompagnais. Voilà, je referme la parenthèse. Et en fait, tout se confirme, la maladie évolue et prend un mauvais tournant. En fait, je fais des complications et les médecins sont un peu perdus. Et à ce moment, on me dit qu'en général, quand ça avance comme ça, juste vers 40 ans, on perd la vue. Et bizarrement, je me souviens avoir été assez sereine. Vous savez, ce moment où on se dit que la volonté de Dieu soit faite. Et honnêtement, je ne sais pas si un jour je me suis vraiment dit « le Seigneur va me guérir ». Je sais que mes proches priaient pour cela, et on l'a dit à l'église, ils ont prié pour moi, et d'ailleurs je les remercie vraiment maintenant. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui me croisent et qui m'en parlent encore et qui me demandent « au fait, pour tes yeux, comment ça se passe ?» Et c'est vrai que j'ai eu des épisodes dans ma vie avec cette maladie où ça stagne, puis ça se réveille, puis ça stagne, puis ça progresse. Et ça a toujours été à des moments clés, des moments forts. Et je ne sais pas si ce sont des moments où le Seigneur me disait on y va, c'est parti, c'est le moment de croire en moi. Honnêtement, je ne sais plus si j'ai vraiment un jour prié pour ma guérison. En fait, très tôt personnellement, j'ai pensé à l'histoire de Paul avec son écharde. Et c'est dingue parce que Gaëlle est venue il y a quelques temps partager son témoignage. Et j'ai rencontré Gaëlle en d'autres circonstances. Et quand on s'est découverte, on s'est raconté justement ces témoignages. Et pour revenir à mon histoire, donc il y a eu cette première grosse crise à 16 ans, ça évoluait. Et vraiment, je suis très reconnaissante pour ce médecin parce qu'elle a vraiment essayé de me traiter par ce traitement expérimental au laser pour éviter la progression. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait une ampoule pour pouvoir faire ce traitement. On devait m'injecter un produit et à l'époque, cette ampoule coûtait 1000 euros. Et bien entendu, c'était à nos frais, c'était pas remboursé, c'était expérimental. Et elle m'a dit « Non, mais je vais quand même pas vous laisser devenir aveugle, vous n'avez que 16 ans. Je vais voir ce que je peux faire. » Et elle a réussi à avoir une ampoule par une de ses amies qui bossait dans un labo. Donc on a pu faire l'opération. Et vous voyez comment Dieu arrive à mettre sur votre chemin des gens qui sont quand même remplis de compassion. Et du coup, ça encourage et ça fait du bien. Et grâce à cette opération, j'ai pu cicatriser donc dans l'œil gauche. Alors maintenant, je vois cette cicatrice, elle est dans mon champ de vision, mais au moins, ça a arrêté la progression. Du moins, ça l'a vraiment ralenti, en tout cas. Mais ça s'est déclaré ensuite dans l'œil droit. Donc, ah oui, parce que j'ai quand même pas expliqué ce qu'était cette maladie. En fait, je vois avec des taches. Il y a des taches qui se créent, qui se forment dans le champ de vision central jusqu'à l'obstruer complètement. Donc, ce qui peut s'avérer être assez handicapant. Donc, malgré la maladie fluctuante avec ses phases de crise, dès le début, comme je le disais, j'ai eu cette paix et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok, je l'accepte. J'accepte cette écharde. Et je crois que certains de mes proches n'ont pas toujours compris pourquoi je ne me battais pas dans la prière, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Alors, est-ce que j'aurais dû l'être? J'avoue que je ne sais pas trop, mais c'est celui dans lequel j'étais. Ensuite, j'ai eu un autre moment de grosse crise quand je suis partie vivre à l'étranger. J'ai dit au Seigneur, non, ici le système de santé, c'est pas le même, c'est pas pareil. Il faut vraiment que tu mettes ta main. Et ils ont commencé à prier pour moi là-bas et ça s'est stabilisé. Et avec le recul, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que je suis à une période clé de ma vie, où je dois prendre une grande décision, c'est comme si cette faiblesse en moi me rappelle que je ne peux pas m'appuyer sur moi-même, mais je ne peux m'appuyer que sur Dieu. Et justement, une autre de ces grandes crises dont je me souviens, c'est celle qui s'est passée juste avant mon mariage. Alors que, bien entendu, j'en avais déjà parlé à Cédric, donc Cédric, mon mari, et je lui avais dit quels étaient les risques. Quand on s'est rencontrés, c'était une période de stabilisation pendant un assez long moment. Et quand on me voit, on n'a pas l'impression que je suis malade, en fait. Ça se voit pas si je ne le dis pas, on voit pas que j'ai des problèmes de vue. Et du coup, même si je le lui ai dit, ça peut paraître un peu lointain. Et là, 10 jours avant le mariage, il y a une dégradation. Une des taches que j'avais a grossi et une autre a apparu. Du coup, au réveil, j'ai vu que ça allait pas. Et tout de suite, ma mère m'a emmenée chez le médecin. Et lorsqu'elle m'a vue, elle m'a dit « on vous opère le lendemain matin d'urgence ». J'ai dit « demain ? Mais je me marie la semaine prochaine ! C'est pas possible ! » Elle me dit « oui, non, mais c'est vraiment urgent, donc on fait ça demain ». Là, je suis abasourdie, je me rappelle que je sors de l'hôpital, j'appelle tout de suite Cédric et je lui dis « Chou, tu te souviens de cette maladie dont je t'avais parlé et tout ?» Et il me dit « oui ». Je lui dis « ça y est, ça s'est dégradé, je dois me faire opérer d'urgence demain, est-ce que tu veux toujours te marier ?» Et là, il me dit « mais bien sûr, ça change absolument rien ». Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à ce moment-là, le Seigneur est quand même incroyable. C'était pile poil le moment où il fallait que je me fasse opérer pour pouvoir prendre les précautions post-opératoires. C'est-à-dire que 7 jours après l'opération, je ne pouvais pas faire de shampoing, pas me laver le visage, pas de maquillage, pas d'exposition au soleil. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « non mais Seigneur, t'es trop fort » parce qu'à un jour près, j'étais en galère pour ma routine de mariage en fait, parce que bien entendu je devais me faire shampooiner. Notre mariage était en plein air, en plein soleil, en plein juillet. Je devais me faire maquiller, la maquilleuse que j'avais déjà payée. Donc en fait, ils se souviennent de moi là-bas comme étant « c'est la jeune mariée ». Et grâce à Dieu, j'ai pu être opérée sans les problèmes de sang dans l'œil, parce que c'est aussi quelque chose qui se passe après l'opération, des traces ensanglantées. Et pour les photos, ça n'aurait pas été vraiment glamour. Donc je leur ai dit « s'il vous plaît, je me marie dans 7 jours, faites attention ». Et là, même là, dans ces petits détails, Dieu a fait grâce et il a été bon. Aucune trace de sang dans les yeux, en tout cas pas cette fois-ci. Ça a été par la suite, mais pas cette fois-ci. Et puis, après le mariage, voilà, il y a des moments où ça a empiré. Et j'ai fait pas mal d'opérations, ils n'arrivaient pas vraiment à savoir ce que c'était, si c'était la maladie, si c'était les complications. Et on a continué par prévention, bref. Pendant un moment, c'était tous les mois, et franchement, c'est devenu lourd. Et j'ai dit au Seigneur, en fait, j'en peux plus. En plus, ça fragilise mes yeux, donc j'ai commencé à faire de la tension dans l'œil. J'avais de plus en plus mal, du mal aussi à retrouver ma vue après chaque opération. Et je remercie vraiment Dieu pour mon mari et pour ma maman. Quand le Seigneur met quelqu'un à vos côtés, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour tous les aspects de votre vie, votre ministère et tout le reste. Et c'est vraiment ça. Et Cédric prenait des jours, arrangeait son planning pour m'emmener et me ramener, parce que bien entendu, après chaque opération, je ne voyais rien. Et soit lui, soit ma maman. Donc, en plus, on faisait les opérations, comme je le disais. Et ils ont vraiment été là, ils ont été un réel soutien. Donc j'ai dit au Seigneur vraiment que je voulais arrêter tout ça. Et Dieu a mis sa main, ça s'est quand même stabilisé. Puis la dernière grosse crise en date, ça s'est passé le jour du baptême de mon beau-frère où je devais chanter. Le matin, on se réveille, j'ouvre les yeux et je ne vois rien. Enfin, quasiment rien. Et je réveille Cédric et je lui dis « mais en fait, je vois rien ». Il me dit « tu veux qu'on aille aux urgences ?» Et je lui dis « non, je ne veux pas louper le baptême d'Angel. Je devais y chanter, on avait déjà loué un van pour emmener plein de jeunes avec nous. C'était vraiment un réel témoignage. » Et donc, j'y suis allée comme ça. C'était le sabbat. J'attends donc la fin du sabbat, le dimanche. Le lundi, c'est pas passé, ça a empiré. Donc du coup, on va aux urgences. Et c'est la première fois où j'ai vraiment craqué. Là, j'ai pleuré dans la voiture et j'en pouvais plus. C'est la première fois où j'ai vraiment eu peur. Et arrivé aux urgences, ils se rendent compte qu'il y a un problème. On me fait passer encore une batterie d'examens, scanner, on me programme une opération. Et moi, je dis au Seigneur, je ne veux pas repasser sur la table, en fait. Il faut que tu me conduises, que tu me diriges vers des solutions naturelles. Bien entendu, je ne voyais rien. Du coup, je commence à mettre des vidéos YouTube où je me mets à écouter. Et je pense que le Seigneur vraiment guide les suggestions des vidéos. Et j'entends des choses, des suggestions de choses à faire. Je commence à mettre en place un protocole à partir de ce que j'entends, que ce soit alimentaire, que ce soit voilà, tout ce qui est bains dérivatifs, cataplasme d'argile et tout ça. Et du coup, j'ai implémenté toutes ces choses pendant la semaine. Et là, au bout de 3 jours, je vois à nouveau. Et quand je retourne voir le médecin, elle me dit « Mais c'est génial, ça a vraiment bien fonctionné, l'opération. » Et je lui dis « Ben non, en fait, je ne l'ai pas faite. » On me dit « Comment ça ?» Je dis « Ben non, j'ai suivi un traitement, je me suis fait un protocole naturel. » Et elle était vraiment choquée, et elle était encore plus choquée quand je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Enfin, tout ça pour dire que mon parcours n'est pas encore fini avec cette maladie aujourd'hui. Ces derniers temps, honnêtement, mes yeux ont recommencé à me faire souffrir. C'était même un combat pour moi, ben, juste d'écrire ces témoignages. Mais on en est là aujourd'hui, et j'ai dit au Seigneur que j'accepte sa volonté pour moi. Je le remercie sans cesse pour les personnes dont il m'a entourée. Je suis pleine de gratitude et de reconnaissance. Je voudrais vraiment faire un coucou particulier, notamment à mes soutiens infaillibles, donc mon mari, qui est encore là aujourd'hui justement, ma maman qui je pense va regarder cette vidéo. Et voilà mon histoire en fait. J'ai peut-être pas le happy ending, la fin heureuse comme on s'y attend, mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui m'attend, mais je sais avec qui je vais y faire face. Et Dieu est le meilleur des alliés. Et c'est vrai qu'un de mes versets préférés que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 3, 19 à 23. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt, je ne veux pas oublier et je suis abattue. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Et je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour lui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Et c'est vrai que ce qui est dit dans ce verset, particulièrement surtout en hébreu, on voit que en fait, j'étais abattue, mais au lieu de m'abattre, Seigneur, je veux continuer de me ressasser, de me remémorer combien tu es un Dieu bon, et je vais me le répéter. Et voilà, je voudrais vraiment que si ce témoignage peut aider quelqu'un qui se dit « Mais pourquoi Dieu ne me guérit pas ?» Ben, j'ai envie de dire que parfois il y a guérison et parfois il n'y en a pas. Mais ça ne change pas qui est Dieu. Ça ne change pas le fait qu'il soit bon et ça ne change pas sa volonté ultime pour nous qui est de nous sauver pour l'éternité.
Nous avons entendu le témoignage très émouvant et encourageant d'Anne-Laure. Quel courage! Cher auditeur, si tu souhaites retrouver ce témoignage dans sa totalité, il se trouve sur le site de la Fédération France Nord des Églises Adventistes du Septième Jour. Guy, maintenant je me tourne vers toi. Est-ce que Dieu intervient vraiment dans la vie des êtres humains aujourd'hui?
Alors, c'est une question générale ou personnelle? Si c'est une question générale, je crois qu'on peut dire que Dieu est intervenu à de multiples reprises. Quand on voit l'histoire de l'humanité, quand on voit l'histoire du peuple hébreu, quand on voit l'histoire des chrétiens d'une façon générale, juste pour dire l'histoire réelle qui s'est passée là depuis 2000 ans, vous rappelez que au début de l'histoire de l'Église, des premiers chrétiens, tous ces chrétiens étaient persécutés. Et il y a eu des martyrs innombrables et on voulait éliminer de la surface de la planète le christianisme. Aujourd'hui, 2000 ans après, vous regardez l'histoire des peuples, vous vous rendez compte que le christianisme non seulement n'a pas disparu, mais il est omniprésent. Alors certes, il est parfois un peu dévoyé ce christianisme, Mais honnêtement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et là, je vois la main de Dieu. Après, si vous posez la question au niveau personnel, là, ça pourrait être une émission à part.
Tout à fait. On aurait beaucoup d'expériences à raconter.
Voilà.
Eh bien, tu peux enchaîner avec le partage biblique.
Ah, d'accord, ok. Eh bien, voilà, je suis encore une fois heureux de me retrouver devant ce micro pour partager un message. Alors, merci pour la sélection des chants. Merci pour ce témoignage émouvant, comme tu l'as dit. Voilà, j'aimerais mettre l'accent sur une question qui nous a toujours interpellés. En tant qu'être humain, pourquoi Jésus est-il le sauveur? En quoi il est sauveur? Et je vais rappeler quelles étaient les réactions au début du christianisme. Alors aujourd'hui, nous vivons une époque quand même particulière où la science fait des progrès incroyables. Et l'être humain est à l'origine de ces révolutions, pour pas dire ces bouleversements. Mais si on parle de progrès, la question c'est, est-ce que l'homme s'est amélioré? Est-ce que l'homme devient meilleur? Permettez-moi d'exprimer un doute. Le racisme est toujours présent. La violence faite aux femmes ne semble pas diminuer. Les réfugiés sont toujours plus nombreux. La fracture sociale toujours plus profonde, les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus démunis, et Dieu dans tout ça. Faut-il croire qu'il intervient dans la vie des êtres humains? La dernière musique qu'on a eue, c'est « Dieu agit, Dieu agira, Dieu agit, Dieu agira ». On rappelait les paroles de ce chant. Hein. Alors dans les récits bibliques, tout au long des pages, on découvre un Dieu qui parle et qui s'adresse directement à des personnes. Dieu parle à Adam et Ève. Il discute avec Caïn. Il donne des ordres à Noé. Il invite Abraham à quitter sa terre natale, l'Irak, et il lui fait des promesses. Il avertit Joseph de la suite de son histoire et de celle de sa famille. Il fait de Moïse son porte-parole auprès des dirigeants égyptiens, mais aussi hébreux. Il s'adresse à tout un peuple, les hébreux, au pied du mont Sinaï, dans le désert. Et puis, dans la suite de l'histoire, on nous raconte qu'il utilise, toujours Dieu, des centaines de prophètes pour indiquer les messages à partager à certains peuples et à leurs dirigeants, mais aussi, naturellement, à la nation d'Israël. La liste des exemples est très longue. Certaines de ces histoires ont inspiré des livres, des films et des milliers d'œuvres artistiques. Il ne faut pas s'étonner de ces échanges entre Dieu et les hommes, car si Dieu est à l'origine de la vie et de l'existence des êtres humains, il paraît tout à fait normal et naturel qu'il y ait ces échanges. Peut-on imaginer un père aimant qui ne parlerait pas avec ses enfants? Cela relèverait, me semble, de la psychiatrie.
Tout à fait. Ouais.
Pourtant, il faut avouer que nous avons affaire avec un père particulièrement étrange. Dieu se dit rempli d'amour pour l'humanité et il nous en donne une preuve en la personne de Jésus qui vient sur la terre en revêtant la nature humaine. Et les premiers chrétiens avaient coutume de dire que Jésus était Dieu sur terre. Or, nous apprenons par l'histoire et les récits bibliques que ce Jésus se laisse crucifier par les êtres humains à qui il manifestait amour et bienveillance. En d'autres termes, Jésus s'est laissé mettre à mort par ses propres enfants, un véritable parricide. Et là, on se dit, trouvez l'erreur. Si c'est ça le message biblique, ne marchons-nous pas un peu sur la tête? Quand on lit le Nouveau Testament, ce message a été qualifié, écoutez bien, de scandale par les Juifs, de scandale, de folie pour les non-Juifs qu'on appelle les païens. Alors pourquoi un scandale et pourquoi une folie ?
Bah, c'était inacceptable.
Pourquoi ? Le mot scandale, eh ben c'est du grec. Quand vous prononcez le mot scandale, vous faites du grec. Hein. Vous voyez, vous êtes plus doué que vous le pensez. Hein. Alors c'est un mot qui fait référence à un piège qui fait tomber ou qui fait trébucher. Alors, d'une façon métaphorique, le mot suggère une erreur, une faute. Et sur le plan spirituel, le mot scandale représente l'idée d'offense qui est faite à quelqu'un ou, sur le plan biblique, le péché, un scandale qui peut nous amener à ne pas faire la volonté de Dieu, le péché. Alors, dans la conception juive, la crucifixion d'un envoyé de Dieu, de l'envoyé de Dieu, pour les Juifs, c'était le Messie, hein, l'envoyé de Dieu qu'on attendait, et donc là, en l'occurrence, c'est Jésus, eh bien, cette crucifixion ne pouvait coller en rien du tout avec l'enseignement habituel. Le Messie attendu, pour les Juifs, hein, était appelé à gouverner le monde et à faire de la nation d'Israël la nation suprême au-dessus de toutes les autres nations. Jésus cloué sur une croix ne pouvait en aucun cas correspondre à cette attente. Pour la nation juive, entendre les chrétiens affirmer que Jésus était le Messie incarnant Dieu était tout bonnement scandaleux. La crucifixion était la preuve même que Jésus ne pouvait pas être Dieu ou son envoyé, car Dieu n'aurait, à l'évidence, jamais permis, une telle injustice. En ce qui concerne les païens, les non-juifs, entendre dire par les chrétiens du premier siècle que Jésus était le sauveur du monde était naturellement pure folie, pour ne pas dire une énorme idiotie. On ne peut oublier le contexte philosophique et religieux dans lequel les premiers chrétiens évoluaient. La culture ambiante était marquée par la philosophie, la logique, le raisonnement et la science. C'était Descartes avant l'heure. La simple idée qu'un homme mis à mort sur une croix soit le sauveur de l'humanité était purement inimaginable. Et n'oublions pas, et ça a été dit, que la croix était un objet d'exécution à mort le plus humiliant qui soit par les Romains. Donc, un pur non-sens. Un vrai délire. Une pure folie. Comment imaginer qu'un homme condamné à mort et enterré puisse être le sauveur des hommes alors que sa propre mort témoignait tout naturellement qu'il n'avait aucun pouvoir. Raisonnement implacable, pour ne pas dire imparable. Prêcher la vie éternelle ou le salut en Jésus avec de tels éléments en tête n'a strictement aucun sens, en tout cas pour les Juifs comme pour les païens. Donc scandale pour les uns, folie ou bêtise pour les autres. Les amis, le monde dans lequel nous vivons est exactement le même que celui des chrétiens des premiers temps il y a 2000 ans. Scepticisme et de rigueur. Si les athées sont nombreux, les agnostiques sont peut-être encore plus nombreux. L'Église voulue par Jésus fait face à un réel défi. Jésus lui a confié une mission, je vous le rappelle. Vous pourrez même citer le verset par cœur. Vous rappelez quand Jésus disait à ses disciples au moment où il va les quitter, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, là où j'ai été crucifié, autour de Jérusalem, dans la Judée, et puis au nord de Jérusalem, en Samarie, et puis vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. » Dans l'évangile de Marc, c'est le même ordre de mission qu'on retrouve, c'est la conclusion de l'évangile de Marc. Jésus dit à ses disciples « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Quelle bonne nouvelle ! Jésus est le sauveur du monde et Dieu aime les êtres humains. Et il est capable de donner sa vie pour eux. Capable de donner sa vie pour eux. Alors nous sommes en droit de nous poser cette question. Comment les premiers chrétiens ont-ils eu le courage d'affronter l'opposition des Juifs et des païens pour qui la mort de Jésus ne pouvait être que scandaleuse ou pure bêtise? Mais les amis, ce courage, le secret de ce courage pour ces premiers chrétiens, s'incarne dans une réalité incroyable. Tous les apôtres et les amis qui gravitaient autour d'eux, il y avait aussi de nombreuses femmes, la Bible nous le dit, ont été les témoins de la résurrection de Jésus et ils l'ont vu en chair et en os. Thomas n'y croyait pas, Thomas c'était un des disciples, et il a fallu qu'il touche Jésus avec ses mains. Paul qui combattait ses premiers chrétiens, lui-même était touché par Jésus sur la route qui menait vers la Syrie. Cette rencontre avec Jésus a bouleversé sa vie. Et dans beaucoup de ses lettres, il a souligné l'importance de la résurrection de Jésus. Dans l'une de ses lettres importantes, adressée aux chrétiens de Corinthe, en Grèce, il affirme qu'à un moment donné, Jésus est apparu, tenez-vous bien, à plus de 500 personnes à la fois.
Wow.
Le témoignage de Jésus vivant, ressuscité, est une réponse aux sceptiques. Le défi aujourd'hui est d'amener les gens à rencontrer Jésus. Et j'ose dire à ceux qui nous écoutent qu'une des preuves que Jésus est vivant, ça a été dit plusieurs fois dans nos échanges, c'est qu'il peut changer notre vie. Je répète, c'est qu'il peut changer notre vie. Si vous êtes dans une impasse, il trouvera une solution. Sa solution à lui, qui ne sera peut-être pas celle que vous souhaitez. Si vous êtes en conflit avec vous-même, votre personnalité, votre caractère, vos réactions, tout ça, il apportera les changements nécessaires qui vous étonneront. Une des choses qui me touche le plus radicalement, c'est quand il dit « Si vous voulez un changement radical, vous serez amené, peut-être, un jour, à être confronté à des ennemis, mais le changement véritable dans votre cœur, c'est que vous serez étonné d'arriver à aimer vos ennemis. » Là, nous sommes au sommet de l'Everest spirituel. Aimer vos ennemis. Il est capable de nous aider à aimer nos ennemis. Si ça, c'est pas une preuve que Jésus est vivant, cherchez-en une autre. Alors, pour terminer, je dis, osons faire l'expérience de Jésus et demandons-lui de se révéler à nous et qu'il nous montre une autre vie.
Thank you.
Merci Guy pour ton message. C'est vrai, rien ne vaut une expérience personnelle et concrète avec Dieu pour réaliser qu'il est vivant et qu'il agit bien dans nos vies. En parlant d'expérience, avez-vous déjà essayé de louer Dieu, d'exprimer des choses à Dieu par la danse? Nous voici dans la chronique Dieu dans les arts. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir autour de cette question. La danse est une pratique qui est un peu plus présente maintenant dans le monde chrétien, mais qui soulève encore pas mal de débats, de questions, et qui est, j'ai l'impression, du coup, devenu quelque chose qu'on évite, avec lequel on n'est pas très à l'aise. Pourtant, la danse pour louer Dieu est bien présente tout au long de la Bible. En voici quelques exemples.
Le psaume 149, le verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec les tambourins et la harpe.
Jérémie 31, verset 13 dit « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. »
2 Samuel 6, le verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin.
Jérémie 31:4. Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu de danses joyeuses.
Comme on l'a dit, rien ne vaut l'expérience. Alors je vous partage l'expérience de Margarita, tirée d'un article de Sandrine Roulet dans le magazine Spirituel, 2-11 de juin et août. Margarita pratique la danse orientale depuis l'âge de 5 ans. Quand sa mère s'y est mise lors d'un séjour en Arabie Saoudite, elle a tout de suite été fascinée. Aujourd'hui, psychologue et art-thérapeute, la trentenaire a fondé la troupe Simra, qui propose des spectacles de danse orientale. Elle donne aussi des cours à Psalmodia ou dans les églises. Mais loin de Margarita, l'idée de séduction, de nombril à l'air et d'attitude lascive. Au contraire, cette danse lui permet d'exprimer sa louange à Dieu.
Avec les danseuses, nous réfléchissons au sens que nous donnons à nos mouvements.
En fin de spectacle, il est arrivé que des hommes viennent dire à Margarita que leur regard sur la femme avait changé. Dans Actes 17-28, il est écrit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Dans la conception de Margarita, le mouvement est un moyen par lequel Dieu amène la guérison, notamment au niveau de l'identité. Elle témoigne.
Le regard des autres me posait problème. J'étais comme déformée et n'osais pas être moi-même. Grâce à la foi en Dieu et à la danse, j'avance dans un processus de libération.
Les participantes au cours expérimentent cette même dimension, comme elles en témoignent.
Je deviens fière d'être une femme. J'ose me tenir droite et je m'ouvre aux autres. J'apprends à accepter mon corps.
Margarita est convaincue que Dieu, pour se révéler, utilise l'art et a fortiori la danse orientale. Une jeune fille écrivait à Margarita.
Dieu m'a tellement touchée. Grâce à lui, je me vois différemment.
Une autre fois, des musulmanes étaient émues aux larmes, certaines que par cette danse, Dieu veut restaurer la dignité des femmes. Lors de chaque spectacle, les danseuses donnent de petits témoignages et proposent aussi un temps de questions ou de prières. Voici donc l'expérience de Margarita avec Dieu par la danse. De mon côté, j'aime la danse. Mais c'est quelque chose que je n'expérimente que depuis quelques années avec Dieu. Je découvre que la danse est vraiment une manière différente d'exprimer des choses à Dieu, parce que le corps tout entier est impliqué. Et cela permet d'exprimer des émotions, des ressentis, même quand nous n'avons pas les mots pour les exprimer. Parfois, j'écoute une musique et j'ai juste envie de danser, d'improviser quelque chose dans mon salon, en tête à tête avec Dieu, selon mon ressenti du moment. Et toi, cher auditeur, as-tu déjà expérimenté la louange par la danse?
Nous voilà à la chronique action. Comme tu le sais, dans cette émission, les chroniqueurs aiment bien lancer des défis. Et cette fois-ci, j'aimerais te proposer un défi long sur une année. Alors attention, n'aie pas peur, hein, je te vois déjà écarquiller les yeux. Attends ce qui va suivre. Je te propose de remettre un projet entre les mains de Dieu. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être les études, le travail, un projet entre amis, pour la famille, enfin tous les sujets qui te tiennent à cœur. Et chaque mois, pendant une durée d'environ 15 minutes, tu écriras ce que tu auras reçu. Sois ouvert, hein, à tout ce qui te passe par la tête. Parfois, on peut voir beaucoup plus clair dans nos vies en faisant le bilan. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut voir comment Dieu répond à nos prières. Alors ne t'inquiète pas, une phrase par mois sur un an, ça fait 12 phrases minimum. Donc je pense que ça devrait aller. Alors je sais que tout le monde va pas forcément le faire, mais ce serait vraiment top si les auditeurs pouvaient se prendre au jeu afin que l'année prochaine, à cette même période, vous puissiez nous transmettre ce que vous avez vécu pendant cette année. Eh ben, je vais aussi m'y prendre au jeu, c'est bien normal. Et l'année prochaine, si Dieu le veut, je témoignerai de ce que j'aurai vécu dans la chronique témoignage pendant l'année. Ne vous inquiétez pas, je ferai régulièrement des piqûres de rappel hein, dans les prochaines émissions. Bonne expérience avec Dieu et on se revoit l'année prochaine.
Bah super, merci pour ce défi. Et je t'invite maintenant, cher auditeur, à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te connaître et cheminer avec toi. Tu es ce qu'il y a de plus réel et sublime. Je souhaite connaître le vrai sens de la vie. Jésus, tu es la vérité et la révélation de Dieu. Seigneur, nous voulons avoir une relation authentique et véritable avec toi. Tu es le seul qui peut nous combler et apporter les changements nécessaires dans nos vies. Aide-nous à tenir ta main constamment. Nous voulons te rencontrer et ne plus te lâcher. Nous sommes convaincus que tu nous aimes et que tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Merci pour ton amour et pour ta patience. Nous voulons garder confiance en toi, t'aimer et t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen.
Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons remarqué que Dieu a parlé à beaucoup de gens dans le passé. On remarque que Dieu parle encore aujourd'hui et il va continuer à être en contact avec nous. Juliana et Brian, je peux que vous remercier pour ces chroniques créatives, profondes et tellement sincères que vous avez apportées. Merci,
merci
beaucoup. Je te remercie aussi, Guy, d'avoir participé avec nous, d'avoir pris du temps pour préparer ces deux émissions avec nous. Merci.
Merci aussi à vous de m'avoir accueilli parmi vous. Et merci aux auditeurs. Voilà, on espère que ça aura un impact auprès d'eux.
Tout à fait. Chers auditeurs, je te remercie d'avoir participé avec nous, d'avoir écouté cette émission. Et si tu connais déjà Jésus, je te souhaite de continuer à vivre une belle relation avec lui. Toi qui nous écoutes et qui es à la recherche de Dieu, j'espère que tu pourras rencontrer rapidement Jésus-Christ. Il est vivant. Il a le pouvoir de changer ta vie et c'est à travers lui que tu pourras trouver Dieu. Ose inviter Jésus à faire partie de ton existence. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.